Radio Barc pour notre 11e, eh bien, nous allons parler du mouvement En Marche avec nos trois invités. Alors tout d'abord, Hélène Régnier, vous allez nous expliquer comment tout ça fonctionne, parce qu'effectivement, certains parlent aujourd'hui avec Emmanuel Macron d'une bulle médiatique qui va exploser. D'autres disent non, au contraire, ça prend consistance, ça existe et ça fonctionne. Alors d'abord, vous, votre responsabilité pour essayer de cadrer les choses.
Alors, je suis référente du mouvement En Marche dans l'Aude. Le mouvement a décidé de s'organiser au niveau départemental. Il y a une centaine de référents actuellement dans quasiment tous les départements. Je crois qu'il n'y a que 4 départements qui n'ont pas de référent à ce jour. Mon rôle, c'est d'encadrer et d'aider et d'assister et de travailler avec des animateurs de comités locaux. Qui, eux, organisent des événements qu'ils proposent à nos adhérents, au cours desquels il y a des discussions, des échanges sur la base de sujets qui sont en fait des relais, des thématiques qui intéressent les Français.
Oui, ouais. Les animateurs de comités locaux, donc, ce sont des gens que vous devez coordonner, en quelque sorte.
Exactement.
Alors, nous avons ici, on va en parler tout à l'heure, David Granel et Sébastien Pinet, qui jouent ce rôle. Donc, vous devez coordonner, c'est peut-être le mot qui convient le mieux, je ne sais pas.
Oui, c'est le mot qui convient le mieux. Il y a une relation qui est très directe, qui est même maintenant, on va dire, quasiment amicale, hein, parce que avec le temps, on travaille régulièrement ensemble, on s'apprécie, on se respecte, ils font du très bon travail. Et pour ma part, je suis aussi souvent amenée à échanger avec des adhérents qui n'ont pas forcément rejoint des comités locaux, mais qui me contactent, qui me posent des questions sur le mouvement, qui veulent participer aussi à des actions. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons une réunion d'adhérents qui va se dérouler à Trèbes, avec plusieurs adhérents qui n'ont pas forcément rejoint des comités locaux, mais qui souhaitaient être présents et se rencontrer.
Et alors, ces comités locaux, c'est là où l'on se rencontre et où l'on débat et où on échafaude le programme, si j'ai bien compris.
Oui, alors, c'est on n'échafaude pas le programme, je ne le formulerai pas comme ça. En réalité, il y a eu la Grande Marche l'été dernier. Le mouvement est allé au contact d'environ 100 000 Français.
Oui, par du porte-à-porte, notamment.
Par du porte-à-porte, de la relation en face-à-face, qui a pu durer assez longtemps avec certaines personnes. Hein, et toutes les réponses ont été analysées.
Et ça a été fait par des animateurs locaux.
Ça a été fait par ce qu'on appelait des marcheurs.
Des marcheurs,
voilà.
Oui,
voilà.
Puisque
des marcheurs.
On est en marche.
À l'époque, il n'y avait pas encore de comités locaux.
Oui.
C'était les personnes qui étaient intéressées. Je rappelle quand même que le mouvement En Marche, à l'origine, il est porté par les jeunes avec Macron. Et que Emmanuel Macron était encore ministre au moment où il a lancé la Grande Marche. Et cette Grande Marche, en fait, a permis d'identifier ce qui tenait à cœur aux Français, quels étaient leurs véritables problèmes. Parce que je donne un petit exemple, hein, juste au passage. Cet été, on a beaucoup parlé du burkini. Et au cours de la Grande Marche, on a pu très clairement s'apercevoir que ce n'était pas un sujet qui passionnait particulièrement les Français.
Donc ça a servi, ce questionnaire, ça a servi de base vraiment au programme.
Ça a servi de base de travail. De base de travail. Et ensuite, ce travail s'est poursuivi par ce que nous avons appelé des ateliers de restitution du diagnostic, où nous avons travaillé non plus en face-à-face avec les citoyens, mais par de ce que nous appelons de l'intelligence collective. Donc nous avons établi des thématiques, et je pense que David et Sébastien pourront vous en parler encore plus en détail, puisqu'ils ont animé ces ateliers. Ces thématiques sont évoquées avec les personnes qui soit ont adhéré à notre mouvement, soit s'intéressent aussi à notre mouvement. Nous réfléchissons ensemble aux réponses à apporter et nous faisons remonter ces réponses à notre mouvement sur Paris, où là aussi les réponses sont analysées et le mouvement travaille en parallèle avec un groupe d'environ 250 experts qui sont répartis sur 9 grosses thématiques qui vont de la défense-sécurité jusqu'à l'emploi, en passant par la santé, par l'éducation, ce qui fait partie en fait des sujets qui sont dans le cœur de la vie quotidienne des Français et dans la politique.
Voilà donc le fonctionnement sur la forme, comment cela se passe. Alors évidemment, un jour ou l'autre, pour le moment, vous travaillez dans l'optique d'une présidentielle, c'est-à-dire de voter pour un candidat à la présidentielle. Mais est-ce que vous préparez la suite, à savoir, il y aura des législatives, il faudra des gens qui se présentent à la députation, etc. La suite.
Bien sûr, ce sujet n'est pas tabou. C'est une question qui revient fréquemment.
Stratégiquement, elle est même très importante.
Elle est très importante, je crois.
Oui, Michel, justement.
À ce sujet, j'ai relevé une phrase d'Emmanuel Macron sur TF1 dimanche dernier, fait une émission de politique qui a eu un grand succès d'ailleurs d'audience. Il a prononcé cette phrase qu'il faut avoir à l'esprit. Je suis en marche et parti pour gagner et pour durer.
Oui, ben justement. Alors,
c'est pas simplement un phénomène qui est lié à la présidentielle, mais qui pour l'initiateur du projet, c'est effectivement de sur le moyen et long terme.
Donc, je réitère ma question. Comment envisagez-vous ensuite de durer, Marie-Hélène?
Alors, sur la durée du mouvement, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Emmanuel Macron nous avait dit à Paris, Sébastien était présent, que le mouvement En Marche dépassait sa personne. Voilà. Et il est exact que quand on voit l'engouement qui est suscité par cette nouvelle offre politique qui est proposée, parce qu'il s'agit d'une nouvelle offre qui dépasse des clivages, on conçoit que si c'était uniquement fédéré par la présence d'Emmanuel Macron, tout aussi doué, intelligent et brillant qu'il soit, et derrière lequel nous sommes tous et que nous portons, eh bien cela serait peut-être décevant. Alors, il y a eu, par le passé, il y a encore quelques mois, des mouvements citoyens qui sont nés, il y en a encore aujourd'hui, et ces mouvements citoyens ont du mal à émerger. Peut-être aussi parce qu'ils pêchent par manque d'expérience de la vie politique, qui est quand même un monde assez particulier.
Et puis qu'ils manquent d'un leader national, charismatique,
peut-être aussi.
Et médiatique, disons, les choses.
Sans doute. Pour notre part, nous souhaitons effectivement nous inscrire dans la durée, parce que sinon, ce serait peut-être un peu trahir les gens qui nous soutiennent. Enfin, en tout cas, je le conçois comme ça. Donc, la législative est une question qui existe dans notre mouvement. Et à l'instar un petit peu de ce que nous avons fait au niveau de nos délégués nationaux, nous avons 9 délégués nationaux, 6 sont issus de la société civile, 3 sont des élus. Nous ne rejetons pas d'emblée les élus.
Ceux qui sont déjà élus.
Exactement.
Déjà.
Ceux qui sont déjà élus. Parce que, évidemment, que nous souhaitons un renouvellement de la vie politique, mais ce n'est pas qu'un renouvellement des personnes. Nous souhaitons un nouveau statut de l'élu. Vous parliez tout à l'heure de Jean-Claude Pérez. Ce qui se passe avec Jean-Claude Pérez, c'est à la fois triste pour la personne, parce que moi, je suis carcassonnaise et je pense que les Français, les Carcassonnais, pardon, appréciaient Jean-Claude Pérez, et c'était un peu triste de voir ce qui se passe, ces jeux d'appareil. Mais le renouvellement doit-il être aussi brutal, ou ne doit-il pas être institutionnalisé, avec un vrai statut de l'élu pour lui permettre une vie après la politique?
Donc ça ferait partie de l'ADN, en quelque sorte, du mouvement. On va poser la question maintenant à Sébastien Pinet. Vous êtes un des animateurs locaux. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on va essayer de voir aussi politiquement comment les choses vont se situer, parce que tout le monde en France pose la question. Ces gens-là, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont au centre. Et lorsque ils répondent qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre, on s'inquiète en quelque sorte.
C'est une erreur, ni l'un ni l'autre. En réalité, on est et l'un et l'autre.
Alors, nuance.
C'est une nuance, mais c'est plus facile de parler du ni-ni que du et. Alors on dit on est ni gauche ni droite. En réalité, on est les deux. Hier soir, j'avais une réunion de comité à laquelle participait Alain Perea, d'ailleurs. Je tiens à le préciser, il ne veut pas rejoindre le mouvement, il a rejoint le mouvement. Et c'est en bonne intelligence.
Voilà une précision intéressante.
En bonne intelligence entre David, lui et moi. Il n'y a que la presse qui veut nous opposer. On s'entend très bien. Je tenais à le préciser. Sur les gens qui étaient présents hier soir, il y avait 50% de gens de droite issus de la droite et 50% de gens issus de la gauche. Et lorsque nous discutons, nous convergeons. On arrive sur tous les sujets à se mettre d'accord. Ce qui m'a le plus surpris lors de la première réunion de comité, c'est qu'il y avait des sujets clivants, il y avait des sujets sur l'islam, sur la communautarisation, et je me suis dit, ça va être difficile de faire s'entendre tout le monde. Ça va être vraiment difficile que personne ne se batte et qu'on se respecte. Et il y a effectivement eu deux clans. Sauf que les clans, c'était pas droite et gauche. Dans chaque clan, il y avait des gens de droite, des gens de gauche, issus de la droite, issus de la gauche. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a tous des valeurs communes en France. Et aujourd'hui, ce clivage, il est dépassé. Qui n'a pas discuté avec quelqu'un de l'opposition en se disant « mais il n'est pas de gauche » ou « il n'est pas de droite ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les valeurs sont autres. Ça ne veut plus rien dire, droite et gauche. Et nous l'avons compris, il faut juste faire sauter ce verrou qui vous empêche, lorsque vous êtes de droite, d'aller vers Emmanuel Macron, ou qui vous empêche, lorsque vous êtes de gauche, d'aller vers Emmanuel Macron parce que vous le trouvez trop à droite.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un sujet qui va harmoniser aujourd'hui les gens, un sujet concret, qu'est-ce qui va harmoniser la gauche et la droite, c'est-à-dire qui va faire la quasi-unanimité et qui peut devenir un programme de gouvernement?
La quasi-unanimité, on ne l'a pas, mais en réalité, tout le monde, quand on est dans le réel, ne me dites pas qu'un socialiste ne sait pas ce que vit un petit patron. Ne me dites pas que quelqu'un de gauche...
Ça reste à prouver, enfin.
Un petit patron, moi je vous parle d'un artisan, ils savent. C'est pas possible quand on est au contact du réel, c'est pas possible. Ne me dites pas que quelqu'un de droite ne sait pas la difficulté qu'a quelqu'un qui est au SMIC de finir les fins de mois. C'est pas vrai. En réalité, sur ces sujets-là, quand on est dans le réel, on est d'accord, il suffit juste d'échanger. Et lorsqu'on échange, on est Emmanuel Macron.
Ah oui, mais échanger, mais il faut dire aussi peut-être que les gens de droite et de gauche, par tradition, s'évitent plutôt que s'invitent.
C'est justement notre mouvement. Et moi, je vous invite à venir dans un comité et vous verrez que les gens de droite et de gauche parlent ensemble et en plus ont une vision commune.
Alors David Granel, on va vous écouter également. Donc vous êtes sûr, vous avez déjà un passé d'ailleurs de conseiller municipal à Narbonne, d'opposition. Vous avez milité dans divers mouvements citoyens également. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a incité à franchir le pas ?
Franchir le pas, pour moi, c'est une continuité. Effectivement, j'ai été reçu à ce même micro précédemment en tant que représentant de mouvement citoyen. Je pense qu'En Marche est avant tout un mouvement citoyen qui s'affranchit des partis. C'est parce que c'est en fonction de, non pas de l'air du temps, mais d'une attente vraiment des Français. J'ai coordonné la fameuse grande marche au printemps et cet été, donc j'ai été vraiment en contact avec les Narbonnais, avec les Audois de manière un peu plus générale. Et c'est vraiment un besoin de la population. Ensuite, comme disait très bien Sébastien, le débat droite-gauche est dépassé. Là, on est vraiment sur un débat entre progressistes et conservateurs. Alors, ce sont peut-être des termes qui ne parlent pas beaucoup aux gens, mais qui, dans la réalité, est vraiment le socle des attentes politiques du moment.
Alors sur les grands sujets, par exemple, on parle de la sécurité sociale, les lois du travail, est-ce que vous pouvez déjà donner non pas des éléments de langage, mais des bribes ou des éléments de futurs programmes qui rassembleraient, pensez-vous, l'ensemble ou la majorité de la population ? Alors peut-être Marie-Hélène Régnier va répondre à cette question.
Merci. Alors sur ces sujets-là, Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il souhaitait au niveau des salariés qui touchent le SMIC, par exemple, il n'y ait plus de cotisation salariale en termes de maladie et de chômage pour avoir une augmentation du salaire net très concrète.
Remplacé par la CSG.
Remplacé par de la CSG qui...
Pas sur tous ceux qui sont assujettis,
puisqu'effectivement, on veut préserver les petites retraites, notamment, qui est un sujet qui est important, puisque les petits retraités ont connu au cours des dernières années des ponctions sur leur niveau de vie qui sont assez importantes et qui ont été souvent très mal vécues dans le quotidien. Il y a aussi un thème qui est important, qu'Emmanuel Macron a déjà évoqué, c'est l'universalité du régime de protection sociale. Pourquoi un cadre supérieur dans une grande entreprise serait-il mieux couvert en termes de santé qu'un petit artisan qui est au RSI ?
Ça, on revient aux bases de la Sécu des années 40, en quelque sorte.
Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut constater quand même que les personnes qui sont ce qu'on appelle les travailleurs non salariés, des TNS, je pense qu'ils se reconnaîtront à l'antenne, ont des difficultés importantes avec les organismes sociaux qui, même s'ils sont composés peut-être de gens de très bonne volonté, en tout cas dans le quotidien, dysfonctionnent. Voilà. Et que c'est un peu injuste que des personnes qui travaillent beaucoup soient si mal protégées. Et il est de même pour le chômage. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très concrètes pour tous les citoyens français et qui doivent avoir une résonance importante.
Et qui donc, petit à petit, vont apparaître comme des éléments de programme que vous allez diffuser, que vous allez expliquer. Michel, un mot peut-être
pour rebondir sur la remarque de David, à savoir qu'il a repris sa thématique entre les partis. Moi, j'aurais pas tendance à ne pas dire cela, quoi, hein, pour En Marche et Macron. Et je constate à l'évidence que il est en train de créer, prenant acte du fait que les anciennes formes de partis étaient en train de vieillir en fait, très très vite en fait, et de se déstructurer. Type, oui. Il propose une nouvelle forme de parti, oui. Qui correspond effectivement à un état des lieux à la fois psychologique, en fait, intellectuel et organisationnel dans l'air du temps et qui correspond aussi à une logique en fait, à la forme de travail en fait, qui est en train de changer, le salarié qui est en train de disparaître.
Est-ce que, David Granel,
forcément, les formes institutionnelles, elles aussi, sont entraînées par ce mouvement et lui propose une offre qui correspond à ce mouvement-là.
Oui, effectivement, quand on parle de comités locaux, tous les partis fonctionnent par grands groupes. Ce sont des circonscriptions où les réunions se font dans des locaux avec un pupitre, un animateur ou un délégué qui a été plus ou moins désigné par Paris, qui prêche la bonne parole qu'on lui a envoyée par mail ou par fax de Paris à ses ouailles. Bref, ce sont des grandes messes. L'information descend. Nous avons choisi, c'est vrai que vous n'avez pas posé la question, pourquoi il y a plusieurs comités locaux en Narbonne, notamment celui que j'anime et celui que Sébastien anime, parce que nous sommes partis d'un principe, il faut que les gens participent. C'est-à-dire que nous, les consignes sont simples. Un comité local ne doit jamais dépasser entre 20 et 25 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'une tribune, mais d'une table. Nous faisons une réunion autour d'une table, et l'animateur n'est que là que pour passer la parole et éviter que certains monopolisent la parole. Nous sommes des groupes de réflexion, nous sommes vraiment des ateliers de travail. Et donc, à ce titre-là, j'espère que dans les mois et les semaines qui vont arriver, il y aura d'autres animateurs sur Narbonne, parce que ça voudra dire que le nombre d'adhérents a augmenté que nous allons démultiplier ces comités de 20 à 25 personnes.
Oui, c'est-à-dire que vous lancez toujours des appels à création de comités.
Bien sûr,
oui.
Il n'y a pas de concurrence entre nous.
Cela dit quand même, si tu permets, il va falloir à un moment donné se structurer, ne serait-ce que pour effectivement gérer la partie en fait, élective en fait, qui va venir, législative en fait, et municipale. Et là, effectivement, c'était la seconde phase de travail.
Voilà. Et là, on arrive dans le concret.
Je vous rassure, j'étais hier soir justement avec une personne du National, et c'est en cours, cette structuration. Et Emmanuel Macron y réfléchit très sérieusement pour que ça se fasse correctement. Si vous observez un petit peu ce qui s'est passé depuis 8 mois, c'est quand même quelque chose d'inédit en France. Je salue tous les citoyens qui se sont mobilisés derrière Emmanuel Macron et qui participent à ce mouvement, parce que vraiment, le travail qui a été fait en 8 mois, il est remarquable. Il y a 2800 comités locaux, à peu près. Il y a eu des centaines et des centaines de réunions de comités, et je parle au-delà de la Grande Marche, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment, cet élan démocratique, par des personnes qui souhaitent réfléchir, qui jouent collectif, qui veulent que la France avance et qu'ils ne sont pas, c'est très important aussi, dans un schéma d'opposer les personnes les unes aux autres, comme peuvent le proposer certains partis dont je ne souhaite absolument pas qu'ils accèdent aux responsabilités d'ailleurs. Donc Emmanuel Macron, il a un tempo qui n'est pas forcément le tempo médiatique, mais qui est un tempo de cohérence et de réflexion. Et la législative arrivera en son temps. Aujourd'hui, de toute façon, nous sommes aussi en pleine primaire socialiste. Donc je pense qu'il est important que cette étape-là soit aussi passée pour que le mouvement En Marche puisse, au niveau national, proposer son offre avec ses singularités et ses atouts.
Voilà. Eh bien, c'est là-dessus que nous conclurons peut-être un tout dernier mot. Vous semblez faire confiance à votre leader. Lorsqu'on l'a vu dans son dernier meeting avec parfois certains excès, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Est-ce qu'il ne se prendrait pas déjà pour le Messie en quelque sorte?
Alors, juste un mot là-dessus. C'est la seule chose qui a été critiquée dans la presse. C'est les 3 dernières minutes du meeting. Je crois qu'on peut s'en réjouir à 2 titres. D'abord, parce que si c'est la seule critique qu'on a à formuler à Emmanuel Macron, c'est que vraiment, il est bon sur tout le reste. Et c'est le plus important.
Voilà.
La deuxième chose, c'est que Aujourd'hui, nous sommes ici devant un micro. Vous nous avez expliqué comment ça fonctionnait au niveau technique. C'est assez fabuleux. Emmanuel Macron, il était devant un micro aussi. Et pour les personnes qui étaient dans la salle, il y avait 15 000 personnes. Le ton a monté au cours des dernières minutes.
Par, il s'est laissé prendre par l'ambiance.
Et ça, ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas dans les micros. Et il a, c'est un réflexe naturel, il a voulu aussi couvrir cette clameur. Et donc, il a parlé plus fort et sa voix a monté. Et au micro, c'est la seule chose qui est répercutée après par vous, les médias, qui avaient des outils techniques. Eh bien, ça ne s'entend pas.
Voilà, bon, bah, écoutez.
Et ensuite, bah, écoutez, ce n'est pas un professionnel. Il ne fait pas ça depuis 40 ans. Il ne fera pas ça non plus dans 30 ans, comme il le dit. Donc, si c'est une petite erreur de débutant au niveau de la maîtrise technique, ce n'est pas grave, on lui pardonne.
Merci, en tout cas, pour ces explications à la fois sur le comportement d'Emmanuel Macron et surtout, surtout le reste. On vous retrouve. On trouvera probablement lorsque le printemps va venir ou avant, puisque évidemment, comme l'indique votre mouvement, vous êtes en marche. C'était la dernière de 2016 pour ce Radio Barque. Nous nous retrouvons l'an prochain avec, en janvier, Marion Thibat, qui est la responsable du secteur culture du PNR et qui viendra nous expliquer ce qu'elle fait à ce niveau-là.
Elle est aussi productrice en face culture. Alors,
en vous souhaitant à tous d'excellentes fêtes pendant cette fête des cette trêve des confriseurs.
Et, bonne fête à tous.
Et à l'année prochaine.
Merci, bonne fête.
Merci.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Merci.